La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
La précédente émission nous a vu nous engager formellement pour, à échéance de Vitaine, enchaîner le stride sur le ragtime.
Car c'en est l'héritier.
Absolument. Le ragtime, on en a largement parlé il y a 8 jours. Eh bien, le stride, c'est un style qui est apparu totalement greffé sur le ragtime, qui, en quelque sorte, lui a succédé. Et ça, c'est sous l'impulsion d'une véritable tribu de pianistes de Harlem, qui étaient d'extraordinaires virtuoses.
Harlem à New York.
Harlem à New York, bien sûr, le quartier noir de New York. Des virtuoses qui vivaient pratiquement les uns avec les autres en permanence, c'est-à-dire qu'ils ont entraîné une sorte de spirale ascendante dans la qualité musicale qui a fait que le ragtime s'est totalement métamorphosé.
Au fond, c'était des compétiteurs.
C'était des compétiteurs. Le stride, c'est quelque chose qui est caractérisé par le jeu de main gauche, qui est directement issu du ragtime. Tu sais que c'est à 4 temps, on fait 10 secondes de technique. La musique à 4 temps a donc un premier temps, un deuxième, un troisième, un quatrième.
Bravo.
Hein, le premier et le troisième, dans ce style-là, c'est une note basse isolée. Et le deuxième et le quatrième, c'est un accord qui correspond à la note basse en question. Et la suite des accords va reconstituer le morceau qu'on a décidé de jouer. Alors ça fait pompa, pompa, pompa. Ça s'appelle d'ailleurs la pompe, également en jazz.
Et c'est très rebondissant.
C'est très rebondissant. La transmission du savoir, avant que les disques ne soient très popularisés, était donc des rouleaux perforés, comme on a dit la dernière fois. Et ces rouleaux ont eu une très grande importance dans la transmission de pianiste à pianiste. On faisait jouer le piano mécanique, on le ralentissait, et comme les touches s'enfonçaient au fur et à mesure que la bande perforée passait, tout le monde pouvait voir, en décortiquant les choses, exactement ce que jouait le pianiste qui avait enregistré la bande en question.
Alors, ça a un côté complètement magique, parce que vous pouviez voir un piano qui joue tout seul, un peu genre piano fantôme,
absolument,
vous voyez.
Absolument, absolument. Et une manette, une sorte de levier pour le freiner. Et c'est comme ça, par exemple, que Duke Ellington a appris Carolina Shout. Parce que Carolina Shout de James P. Johnson était le morceau qu'il fallait connaître avant de savoir jouer stride, d'être considéré. C'est le premier de tous les morceaux.
Donc, si je comprends bien, il mettait ses doigts dans les touches qui se baissaient pour apprendre à jouer ce morceau.
Et ce morceau-là a servi à d'innombrables pianistes de l'époque à apprendre à jouer stride. Parce que James P. Johnson, le premier des pianistes dont on va parler aujourd'hui, c'est le père du style stride, c'est une sorte d'archétype. Et là, son morceau de référence, celui qui a servi à tout le monde, qui était le test, le passeport, c'était Carolina Shout. Thank you.
On a parlé de stride, mais qu'est-ce que ça veut dire, stride ?
Eh bien, stride, ça veut dire enjamber, en fait, stricto sensu. Hein, le mot veut dire enjamber. Alors, c'est le mot qui désigne le mouvement de la main gauche de ces pianistes.
Ah oui, qui fait un pont.
Il enjambe perpétuellement le clavier entre la note isolée des temps impairs et l'accord frappé des temps pairs. Et comme en jazz, tout se passe à l'envers, au point, parce que c'est une musique pulsée, c'est les temps deuxième et quatrième qui
sont les plus forts.
La pulsation, donc la main passe sa vie à revenir vers l'accord pour faire fonctionner le morceau. Voilà. C'est ce qu'on a pu entendre là. Alors ce Carolina Shout, donc tout à fait légendaire, joué par James P. Johnson, était le morceau de base.
Emblématique.
Et là, on pouvait entrer dans une confrérie très fermée qui s'appelait les Ticklers. Parce qu'à Harlem, il y avait deux confréries. Il y avait les Hoofers, qui étaient les danseurs à claquettes, les tap dancers, et les Ticklers, qui étaient les chatouilleurs.
Oui, parce que tickle, ça veut dire chatouiller en anglais.
Exactement. C'était les chatouilleurs de clavier. Et pour faire partie des Ticklers, il fallait d'abord commencer par savoir jouer Carolina Shout, sans regarder ses mains, naturellement. Naturellement.
Et puis, il fallait être de Harlem.
Harlem a attiré beaucoup de monde. Une fois qu'on était là, on était là. Hein. C'est comme Paris. À Paris, c'est peuplé de provinciaux. Hein. Ben Harlem, c'est un peu Paris. D'ailleurs, je pense qu'à propos de Harlem, depuis le temps qu'on parle de Harlem dans cette émission, c'est un quartier de New York, ça tout le monde le sait. C'est le quartier noir, tout le monde le sait encore. Mais il est peut-être temps d'en faire un petit peu d'historique quand même. Après tout, pourquoi pas.
Harlem, donc, c'est un quartier de New York. Et New York, c'est une ville vraiment cosmopolite. Et vous allez voir que Harlem en est un bon résumé. Cette histoire a commencé très très tôt. Le premier nom de New York, eh bien, ça a été la Nouvelle-Amsterdam. Pourquoi ? Parce que c'était des Hollandais qui l'avaient peuplé en premier, si on peut dire. Enfin, disons des colons, parce qu'avant, il y avait les Indiens, bien sûr. Elle a commencé par être découverte par un Italien qui était armé par le roi de France, François Ier, et il a appelé cette ville Nouvelle-Angoulême. Et
puis, en l'honneur de la duchesse d'Angoulême, je suppose.
Naturellement. Et puis ensuite, l'embouchure du fleuve, il l'a appelé Vendôme. Ça deviendra beaucoup plus tard le fleuve Hudson.
Le Hudson River.
Au début, franchement, il n'y avait que des vendeurs de peaux de castor qui étaient très prisés, qu'ils achetaient aux Indiens, ils n'allaient même pas les chercher eux-mêmes. Et puis, après, les Néerlandais se sont installés là. Oh, ils se sont trouvés que c'était drôlement bien. C'était des gros navigateurs, les Hollandais. Hein. Pour mettre un petit peu leur village à l'abri, mais ils ont fait une enceinte fortifiée en bois.
Bon, on ne sait jamais quand même. On sait jamais.
Bon. Et puis, ils se sont dit, oh, ça fait du boulot tout ça. Bon, ils ont importé les premiers esclaves. Bon. Et tout d'un coup, les gens ont commencé à s'intéresser à cette ville parce qu'elle était au fond d'une baie. Donc, c'était très bien pour les bateaux.
Puis, c'était très pratique parce que la presqu'île qui deviendra Manhattan, c'est un endroit qu'on peut totalement équiper de tous les côtés en installation portuaire.
Les premiers colons qui y étaient installés, c'était des colons néerlandais, je vous l'ai dit. On l'a appelé la Nouvelle-Amsterdam. Et puis, il y a eu plein de noms qui se sont trouvés, par exemple, Coney Island, le grand parc d'animation de la ville de New York, qui est juste à côté. Ça venait du nom de Koningin Island, qui est hollandais. C'est l'île du roi. Et puis, Brooklyn, on en parle aussi de Brooklyn. Eh bien, c'était Brooklyn, tout simplement. Et Wall Street, attendez, Wall Street, ben ça veut dire, en réalité, Wallstraat, qui est la rue des Vallons.
C'était un petit enclave où on causait sans doute un peu français.
Un peu français, voilà. Alors, vous voyez, finalement, Harlem, eh bien, ça venait de la ville de Harlem, qui est de l'autre côté d'Amsterdam.
Oui, c'était à une vingtaine de kilomètres.
À une vingtaine de kilomètres. Donc, en réalité, cette ville dont on parle, New York, Amérique, Angleterre, etc., ben, pratiquement tous leurs noms, ce sont des noms hollandais.
Et plus tard, les Hollandais, cédant à d'amicales pressions anglaises, ont cédé leur domaine, leur comptoir, qui est devenu un comptoir, contre la possibilité d'aller installer, à côté de la Guyane anglaise, une colonie hollandaise qui s'appellera le...
Suriname.
Vous savez tout sur Haarlem maintenant, en tout cas sur le nom. Alors évidemment, Haarlem, ça prend deux A en hollandais. Il y a un A qui a disparu dans la bagarre. Mais ça reste un quartier, surtout à l'époque où nous parlons, un quartier d'une énorme créativité. Et James Fitz Johnson a un élève qui s'appelle Thomas Waller, qui est fils de pasteur.
Il est beaucoup plus connu sous le nom de Fats, parce que c'était un sacré gros type.
Ah, c'était un type très grand et très épais, qui pesait 130 kilos, mais il faut dire que sa mère en pesait 140. Donc on est donc dans une sorte de génétique. Et ce Fats, il était hyper doué pour la musique, mais... Son père pasteur ne voulait pas qu'on joue la musique du diable dans son église, donc il avait filé de chez lui et il cherchait un piano. Il avait été recueilli par James P. Johnson, dont nous venons de parler, dont il est devenu l'élève. Et James P. dit quelque part que Fats Waller, qui était organiste, n'avait pas une bonne main gauche au départ, parce que l'orgue ne donne pas une bonne main gauche, ça c'est James P. qui le dit, moi je fais que suivre, hein. Et qu'il a donc fait énormément travailler sa main gauche. Alors le résultat a été naturellement tout à fait à la hauteur. Fats Waller est un fabuleux pianiste. Et c'est le grand classique du Stride, en fait, Fats. Et voici un de ses morceaux de bravoure, une de ses compositions. Ça aussi, il fallait savoir le jouer quand on voulait être un tickleur digne de ce nom. Et c'était pas facile du tout. Ça s'appelle...
Handful of Keys, ce qui veut dire les mains pleines de clés. Ah, ah.
C'est ça, pour les clés, vous avez le choix, la clé de Fa, la clé de Sol, la clé du de première, deuxième, troisième, et tutti quanti. Les grands du Stride sont trois. Le troisième, c'est le lion. Le lion, à cause de son courage...
À la guerre de 14.
À la guerre de 14, lorsqu'il avait débarqué en France avec l'armée américaine et les diables bleus du général Pershing, dit-on. En tout cas, son capitaine disait de lui, c'est un vrai lion, quoi, s'ils étaient tous comme lui, etc.
Et il a gardé un goût et un amour pour la France énorme.
Considérable.
Ah ouais.
Ça, c'est vrai. Alors ça, c'est le seul des trois qu'on a vraiment, nous, eu l'occasion de connaître et de fréquenter. Et on ne s'est pas ennuyé une minute. C'était un personnage, un vrai personnage, un vrai personnage. Il est différent des deux autres, moi, je trouve. Il a une main gauche un petit peu différente, qui vient peut-être du fait que le lion a énormément travaillé la musique classique, en particulier Bach. Et il disait, pour avoir une bonne main gauche, mesdames et messieurs, il faut
travailler Bach.
Et quand il voyait quelqu'un arriver pour parler piano, il disait, combien y a-t-il d'accords diminués ? L'autre répondait, 3. Alors il était admis, il répondait autre chose ou rien, il était totalement rejeté, et le lion s'occupait de quelqu'un d'autre.
Peste.
Voici un morceau tout à fait emblématique du lion, qui en a composé beaucoup, qui ont beaucoup de saveurs, et un petit côté réminiscent de la musique européenne romantique. Celui-là s'appelle Finger Buster. Naturellement, les ticklers, ce n'étaient pas que trois. Il y avait toute une mouvance autour d'eux, et notamment les pianistes qui avaient réussi à passer la barre du fameux Carolina Shout, puis qui commençait à être un peu connu à droite ou à gauche. Donc on va en passer quelques-uns en revue comme ça, mais...
Ils ne sont pas très très connus.
Ils sont beaucoup moins connus, mais ils sont quand même très bons. Et là, il faut souligner que tout ce mouvement s'entretenait à coup de compétition. C'était de la compétition permanente.
Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement.
Vraiment. Et cette compétition pouvait avoir lieu absolument n'importe où, démarrer n'importe quand, et même souvent n'importe comment. Les gens se retrouvaient comme ça, et hop, ça partait. Dans ses mémoires, La rage de vivre, Mesmerot en a raconté une comme ça, en passant. Il y a une petite page. Alors, ce jour-là, autour du piano, il y a donc les maîtres. Enfin, pas tous, mais il y a au moins le lion et Fats Waller. Et puis, il y a un deuxième couteau à qui on confie le soin de lancer la soirée, qui s'appelle Corky Williams. Alors, Corky Williams, je crois qu'il n'a jamais enregistré, mais c'est comme ça que ça commence avec Corky. Puis après, ça monte en température. Racontons la soirée.
Corky s'était mis au piano le premier et avait débuté par Tea for Two, un air que Willie the Lion savait faire drôlement barder. Tout à coup, Willie bondit et dit à Corky « Tire-toi de là, espèce d'enfant de putain de pianiste manchot, je le tiens !» Et là-dessus, il s'assied à côté de Corky. Tandis que Corky se poussait, Willie commence à jouer uniquement la partie de la main droite, Corky gardant les basses. Après quoi, Willie prend la relève de la main gauche aussi et sans sauter seulement un temps. Willie joua ainsi tout seul pendant un moment. Ensuite, Fats prit la suite, se coulant de la même manière que Willie l'avait fait pour Corky, et tapa un moment sur la commode en lançant à Willie des coups d'œil entendus à chaque passage original ou difficile. Et plus ça durait, plus la musique devenait frénétique, le piano n'ayant plus une fraction de seconde de répit, jusqu'au moment où Fats dit « Je m'en vais mettre tout le monde d'accord ». Il appelle son chauffeur et lui parle à l'oreille. L'autre sort et revient une heure après, mais pas seul. Fats avait téléphoné à James P. Johnson, à Jamaïca, dans Long Island. Il l'avait réveillé et tiré du lit. Le chauffeur se ramène donc avec James P. qui se frottait les yeux encore dans le cirage. Mais dès qu'il se mit au clavier, fini ! Il avait les poignes tellement pleines de piano que c'était pas la peine de gueuler « Éteignez tout et appelez la police !» La police fit irruption sur plainte des voisins. On était tranquillement assis en bas à écouter la musique, nous disent les flics, quand on nous a appelés du poste pour nous signaler du tapage nocturne dans le voisinage. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas de goût pour ce qui est de la musique. Fats, ferme les fenêtres, verse-nous à boire et remets ça. Si bien que la séance se prolongea fort avant dans la journée, avec nos deux flics qui se prélassaient en buvant notre alcool et en écoutant notre belle musique.
Des récits comme ça, il y en a des dizaines. Et ça situe tout à fait l'ambiance. C'était musique d'abord. Ils mangeaient, buvaient et dormaient musique. Nous venons donc d'entendre Willie Smith le Lion, dont le nom réel, c'était William Henry Joseph Bonaparte Bertholoff.
Oh là là, ça fait plaisir d'entendre tout ça.
Et voici maintenant la doublure de Fats Waller. C'est-à-dire que Fats Waller, qui avait acquis un très grand renom et qui vendait énormément de disques avec son petit orchestre qui ne répétait jamais, on en parlera une autre fois. Là, on en est à Hank Duncan. Et ce Hank Duncan était le pianiste du grand orchestre de Fats, parce que de temps en temps, Fats partait en tournée avec un big band. Et là, lui, il passait en attraction, mais il fallait que le big band qui commençait le spectacle ait également son pianiste. Il y a un morceau tout à fait étonnant qu'ils ont enregistré avec ce big band, où les deux pianistes jouent d'abord la doublure et ensuite Fats. Donc on entend Hank Duncan, puis après on entend Fats qui s'écrie « À moi maintenant, à moi !» Et hop,
le maître.
Il a dû lui faire le coup du remplacement au clavier. Et le morceau se termine dans une sorte d'apothéose avec un saxo-soprano qui s'appelait Emmett Matthews, totalement
déchaîné.
Et une sorte d'explosion finale et pianistique. Et ça s'appelle I Got Rhythm. C'est le morceau finalement bien sage par rapport que Gershwin écrivit à partir de ce qu'il entendait dans le jazz. We'll be right back.
brother Duncan. He's getting smart, too. See that cat striding over there? Look like he's trying to get something from me. Look like he's trying to get something from me.
Show him how to swing, Hanky.
Oh, I ain't gonna have that. Well, I got him some. He belongs to me. He's mine. He's mine. There he is. Turn him loose. Well, all right.
Un autre pianiste très connu de l'époque s'appelle Lucky Roberts. Alors ce Lucky Roberts, il a eu un destin un peu particulier, très similaire à celui de Huey Blake qu'on a beaucoup entendu lors de la précédente émission.
Oui, c'était un ancien ragtimer.
Il a commencé dans le ragtime, il était un peu plus vieux que les autres, là, parce que tu vois, quand tu regardes les dates de naissance, tous les gens qu'on a entendus sont nés un peu avant le siècle, ou très peu de temps après.
Tandis que lui, c'est 87, 1887.
Lui, c'est 1887, donc il a connu... Puis en plus, il a commencé à 12 ans, donc il a connu le ragtime du 19e siècle, en quelque sorte.
Carrément.
Mais quand même, il faisait partie de la tribu, et on a finalement eu le souci de le faire enregistrer des morceaux en solo. Donc on va pouvoir entendre une de ses compositions. Et c'est le moment de dire aussi autre chose sur le stride. C'est pas seulement la pompe dont on a parlé tout à l'heure, parce que les grands striders ont beaucoup de variétés dans leur jeu. Pour parler technique, 10 secondes, il y a des dixièmes, il y a des décalages rythmiques dans une main gauche qui doit être une sorte de section rythmique à elle toute seule. C'est James P. Johnson qui disait ça. Alors du côté de la main droite, le jeu est souvent à base de tierces, de sixtes et de quartes, dit un éminent...
Spécialiste
et musicologue. On retrouve beaucoup de tournures, de courtes phrases qui s'emboîtent les unes dans les autres, dans un ordre à chaque fois différent, pour former une dentelle parfaitement logique, entremêlant souvent plusieurs dessins simultanés. Les pianistes stride ont certainement puisé une partie de leur inspiration harmonique et mélodique, y compris certains procédés de main gauche, chez les compositeurs romantiques comme Chopin et Schumann. Alors ça, c'est bien vrai. Voici de Lucky Roberts, une composition dont le titre
est Nothing, ce qui veut dire rien.
Ce rien-là est déjà quelque chose. Thank you.
C'est vraiment gai, hein. C'est quelque chose d'agréable à entendre.
On peut d'ailleurs constater que chez tous ces gens qui ont maîtrisé leur sujet, la gaieté domine. En fin de compte, hein, le disco de Fats avec toute cette bonne humeur qui se dégage de ce morceau endiablé, puis là, c'est une musique très gaie.
Et alors chez celui-là, il y a quelque chose de vraiment tout à fait intéressant. Sa main droite, c'est vraiment du ragtime. Et sa main gauche, c'est du stride.
C'est bien pour ça que j'ai passé ce morceau.
Franchement, en fait. C'est un homme qui est à la frontière. Il est à la fois les deux.
Ah ben tout à fait.
Et c'est vraiment intéressant à voir.
Tout à fait. Il a totalement participé, alors lui, à tout le mouvement. Le pianiste suivant, c'est un modeste. C'est un type qui a passé sa vie à jouer dans des petits clubs, des circonstances de deuxième ordre. Il ne se montrait pas. De temps en temps, il venait à Harlem se mêler aux compétitions en cours. Et là, naturellement, il était extrêmement respecté, car la première caractéristique de Donald Lambert, c'est qu'il a une main gauche
de marbre.
Oui, ça, je dois dire, la main gauche de Donald Lambert, c'est d'une solidité absolument à toute épreuve. Les constructions dont il a tenu à ce qu'elles soient enregistrées, puisqu'on a fini par le presser d'enregistrer quelque chose, ce sont des constructions classiques. C'est-à-dire que Donald Lambert, c'est l'art d'accommoder les classiques. Il s'est attaqué à Tannhauser, il s'est attaqué au sextet de Lucia de la Mermoor, etc.
Oula.
Je ne sais pas très bien pourquoi, mais Peer Gynt de Grieg a servi de réservoir d'idées à pas mal de gens.
Ah, mais moi je sais pourquoi. Parce que Peer Gynt, c'est un succès mondial. Mondial. C'était comme un tube de la musique classique. Tous les pays ont, je dirais, européens et à l'époque américains, ont connu ces airs de Peer Gynt.
Un opéra très célèbre. Mais là-dedans, ce n'était pas que le succès. Là-dedans, il y a des choses qui ont inspiré les gens. Alors, naturellement, Donald Lambert n'a pas manqué d'interpréter quelque chose venant de cet opéra. Et il a décidé d'accommoder à sa sauce la célèbre
danse d'Anitra, qu'on appelle Anitra's Dance.
Derrière toute cette facilité, se cache naturellement un énorme travail. Même quelqu'un de totalement fantaisiste d'aspect, totalement surdoué, comme Fats Waller, quand on entend les gens raconter comment ils s'y prenaient, et comment ils vivaient, c'est des gens qui travaillaient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ouais. Pour jouer comme ça, d'ailleurs, il n'y a pas de mystère. Mmh. N'importe quel pianiste vous le dira. Alors après la main gauche de marbre, voici la main gauche en caoutchouc. Car quand on voit jouer Cliff Jackson, on est très frappé de ça. Il y a des vraies oppositions de style dans la main gauche du Strayer.
Visuel même.
Et même visuel. Cliff Jackson, c'est également un modeste, comme Donald Lambert. Il a relativement peu enregistré. Il a été le pianiste de pas mal de choses qu'on connaît en disque. Mais en solo, on connaît vraiment très peu de choses de lui.
Et c'est vraiment un contemporain. Hein. Ils sont nés dans le début, tout début des années 1900, tous les deux.
Là, on a un disque assez étonnant que... Un jour de banjo nommé Elmer Snowden, qui est très connu pour avoir été le cofondateur de l'orchestre Ellington, avant que Duke et lui aient une sévère divergence de vue qui a abouti au départ d'Elmer Snowden. Et Elmer Snowden a fait un disque de banjo avec, comme pianiste, Cliff Jackson. C'est donc un disque de banjo, mais où on entend très bien le pianiste et son style. Et on voit que Cliff Jackson était un type qui connaissait très bien son affaire. Le morceau s'appelle
« Running Wild ».
C'est le morceau que chante Marilyn Monroe dans le train de Certain Lame Show.
Ah oui.
Quand il y a ce petit bœuf là. Et c'est sous-titré dans le film en vagabondant.
Thank you.
pourtant, le stride est quelque chose qui, naturellement, ne s'est pas arrêté avec ses créateurs. D'ailleurs, c'est un style de piano qui se joue toujours. Et même de nos jours, on considère qu'un pianiste de jazz n'est pas un pianiste complet s'il ne sait pas jouer stride.
Et ça, on va vous en parler un petit peu plus tard.
Exactement. Voici maintenant donc la génération suivante, ce sont les élèves. Alors, il y a l'élève de Fats Waller. Il s'appelle Pat Flowers. Puisqu'un élève, c'est un fan. Lui, il joue comme Fats, il chante comme Fats, il a monté un petit orchestre comme Fats.
Oui, mais il mange moins que Fats.
Ah, il mange moins que Fats. D'ailleurs, les photos qu'on connaît de lui le montrent tout à fait. Mais il a l'esprit de Fats. Pat Flowers a enregistré un morceau qui s'appelle « Bach, prélude et fugue ». Tout ça, c'est en jazz, c'était bien avant qu'un pianiste français en fasse autant. Et ce morceau est tout à fait intéressant. Sans compter, d'ailleurs, c'est un des meilleurs que nous ait laissé Pat Flowers. Tu vois, ces gens-là connaissaient bien aussi la musique classique européenne.
Oui, c'est vrai que c'est un très bon technicien. Hein. Mais il semble quand même qu'il manque un peu ces espèces de décalages rythmiques, cette étincelle qu'avait Fats.
Mais Fats est unique. Évidemment, son élève n'arrive pas au même niveau. D'ailleurs, sinon, ça se serait.
Oui, absolument.
Pour l'élève de Fats, voici l'élève de Willie Smith, The Lion. L'élève du lion, c'est un petit blanc qui est allé le trouver et qui a travaillé avec lui. Et c'est un très très bon pianiste, ce Ralph Sutton. D'ailleurs, lui, on l'a également connu puisque nous avons eu la bonne fortune de le faire venir d'Amérique pour jouer à un festival que nous organisions. Et ça a été un régal pendant 4 jours de repas. Vraiment. Ralph Sutton, c'est un des grands pianistes stride. Il a une carrière assez longue et il a enregistré des solos de piano, tout à fait dans l'esprit de ce qu'on lui avait appris. Le morceau s'appelle « Bees Knees ». Ça veut dire « genou d'abeille », mais en fait, ça ne veut rien dire. C'est un mot d'argot, un très vieux mot d'argot qui désigne quelque chose de tout à fait excellent. Thank you. Et puis il y a l'héritier, c'est-à-dire celui qui savait tout faire, celui qui s'est attaqué au stride très jeune, qui a totalement maîtrisé la chose, puis qui après a bâti un véritable monde musical.
Et qui est devenu l'égal des maîtres.
Oh, mais même plus que l'égal. Je pense qu'Artetum, c'est un des plus grands musiciens du siècle. Dans sa maîtrise du stride, il a atteint vraiment des sommets, à tel point d'ailleurs que quand Artetum arrivait quelque part, et à l'époque, il avait à peine plus que 20 ans, il n'y avait pas de concours.
Personne n'osait se mesurer à lui, mais je crois que c'était un tel respect.
C'était du respect. On raconte que Fats, qui était en train de jouer dans son fief, qui était le Yacht Club, et de mettre le feu à la maison comme tous les soirs, apprend qu'Artetum est en train de descendre l'escalier pour venir l'écouter. Et là, Fats se lève, dit aux gens, « Mesdames et messieurs, Dieu est avec nous ce soir. » Et il lui laisse le clavier.
C'était
ça s'est
quand...
passé comme ça.
C'était quand même Fats.
Oui, mais c'était Tetum. Tetum est unanimement considéré par les musiciens de jazz comme le plus grand musicien qu'il ait jamais eu. Et c'est lui qui a pris le relais de l'influence de Louis Armstrong dans le jazz à partir de la fin des années 30. On peut le dire comme ça, en tout cas. Alors, c'est pas la peine de raconter quoi que ce soit d'autre sur Art Tetum.
On va l'entendre.
On va faire comme Fats. On va lui laisser les claviers. Ça s'appelle « J'aimerais faire quelque chose pour vous ».
Vous faire entendre Art Tetum, par exemple. Quand on entend ça, on dit évidemment.
Évidemment. D'ailleurs, non seulement évidemment, mais je me rappelle la réflexion de quelqu'un qui n'avait jamais entendu Tetum, mais qui, lui, descendait l'escalier pour aller écouter Tetum, et entendant ça, pensait qu'il y avait deux pianistes.
Ce qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'il a un tempo, mais alors d'une rapidité incroyable.
D'une grande stabilité aussi.
Mais d'une grande stabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression qu'il y a une note qui va se chevaucher à l'autre parce qu'il va très très vite. C'est parfait.
Ah, c'est parfait. Je pense quand même qu'on pourrait terminer cette émission par les petits Français, car le club des Ticklers existe toujours, il est mondial, et là-dedans, il y a quelques petits Français. On va commencer par l'amateur, parce qu'il y a des amateurs. Et celui-là, il a tellement travaillé que quand on voit le résultat, on se dit, c'est étonnant que ce type soit amateur.
Et il est de maintenant, hein. c'est un maintenant. Contemporain, hein. C'est pas d'il y a 60 ans.
On va vous le dire tout simplement, l'orchestre que nous avons souvent évoqué ici, puisqu'il a beaucoup été entendu ici, l'orchestre des Dumoustier Stompers, a eu 3 pianistes successifs, et le critère, ça a été que tous les 3 savaient jouer Stride. Là, c'est le tout premier des 3, Jean-Claude Vartagnan, et le morceau s'appelle « Emmène-moi au baseball ». Et comme ce morceau était à l'origine d'une valse, eh bien, Vartagnan, il joue la valse, pour commencer. Pas évoquer tout le contenu du club, puisque là on n'a vraiment plus le temps. Donc on parlera pas d'un très grand pianiste qui s'appelle Bernd Lotzky, qui est concertiste classique et également pianiste de jazz, pratiquant le stride avec une maîtrise absolument fantastique. On va rester entre Français et les deux personnes qui sont d'ailleurs des personnages qui ont marqué le stride en France dans la jeune génération. Ont été François Rilhac et Louis Mastier, qui étaient d'ailleurs des inséparables, qui jouaient souvent en duo. Nous allons commencer par François Rilhac, qui nous a quittés trop tôt. Je ne veux pas en dire plus, parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous avait tellement fait peine à l'époque qu'on n'en parlera pas davantage. François Rilhac avait accommodé, entre mille choses, parce qu'il savait faire mille choses, et il était tout le temps en mouvement, un vieux morceau de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle « High Society ».
Thank you.
Voilà, c'était François Rilhac qui, malheureusement, a décidé de nous planter là quand il avait 32 ans et il a fait beaucoup de peine à tout le monde, et en particulier à son copain Louis Mastier. Mais il nous reste Louis Mastier. Louis Mastier, lui, il est en pleine forme, il joue très souvent en concert en France, en Europe et même en Amérique. Et à chacun de ses concerts, il tient à rappeler son copain Rilhac et à jouer un de ses morceaux. Et dans les morceaux que Rilhac a laissés, il y a un morceau qui s'appelle « Tout bêtement ».
Stride en fa mineur. C'est beau ça, la fidélité en amitié.
Je trouve. Et si vous voyez annoncer quelque part Louis Mastier...
Allez-y.
Allez-y. Et
vous ne serez pas déçus.
Vous ne serez pas déçus. Vous pourrez même lui faire la bise de notre part.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.
Thank you.